Actes chapitre 16, les versets 1 à 5. Nous allons faire un voyage un peu. Vous aimez voyager? Ça dépend où on va. Hein? Si c'est au pied des cocotiers, voilà, c'est bien. Hein? Mais nous allons faire un voyage, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais on va faire un voyage avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul entame son deuxième voyage missionnaire. Et après avoir quitté Jérusalem où il a traité d'une crise qui a failli diviser l'Église de Christ, Paul poursuit donc son voyage avec pour objectif d'amener les croyants et les églises en général à grandir dans la foi. Vous savez, c'est l'objectif de tout serviteur de Dieu, que le croyant et l'Église progressent dans sa marche avec le Seigneur. Et Paul, quand on lit les épîtres, on se rend compte que Paul retournait dans les assemblées pour fortifier la foi des croyants, pour bénir, j'ai un assistant, pour bénir l'Église. En passant, voilà, merci aux enfants d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Hein. On est heureux de vous avoir avec nous. Amen. Voilà. Donc l'apôtre Paul, il avait ce désir-là, non seulement de prêcher le message de l'Évangile comme cela lui a été donné de la part du Seigneur, il avait à cœur véritablement d'instruire les croyants aussi, de stimuler la foi des croyants et des églises. Et là, dans ce que nous allons lire, après avoir quitté Jérusalem, Paul poursuit son voyage missionnaire. Et nous lisons à partir du verset 1er du chapitre 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et voici le verset sur lequel nous allons nous attarder. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Amen. Les églises se fortifiaient dans la foi. Voilà une notion essentielle dans la vie du croyant et dans l'Église de Christ. Être fortifié dans notre foi. Nous savons, frères et sœurs, que la foi est essentielle pour nous. La foi est primordiale parce que c'est par la foi que nous avons été sauvés. Paul le rappelle aux Éphésiens, ce ne sont pas par nos œuvres, nous ne méritons rien devant Dieu, mais par sa grâce il nous a sauvés et c'est par la foi que nous avons réalisé véritablement que Christ a été l'envoyé de Dieu auprès de nous pour nous arracher de la puissance des ténèbres. Bien que nous n'ayons pas vu le Seigneur de nos propres yeux, nous avons cru. Nous avons cru en lui. Nous avons cru en son œuvre bienfaisante. Nous avons cru à la puissance de la croix pour être délivrés. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu cette foi. Et vous savez, la foi du croyant ne doit pas demeurer stérile. Et tout comme le croyant, l'Église de Christ a besoin de se fortifier dans la foi. Il est essentiel, frères et sœurs, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous vivons des temps difficiles. Nous sommes dans des temps où véritablement tous les hommes sont éprouvés et d'autant plus l'Église de Christ. Et le diable s'acharne. L'ennemi de nos âmes, il a un objectif, détruire l'Église. Parce qu'il sait véritablement la puissance que Dieu a donnée à son Église. Et il désire une chose, terrasser non seulement les croyants, mais détruire l'Église. Alors, l'objectif de Paul, c'était de fortifier non seulement les croyants, mais les églises. Le dernier verset du chapitre précédent, le chapitre 15, verset 41, il nous est dit, « Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. » Fortifiant. Le désir de Paul était que les églises soient fortes. Voilà l'objectif. Cela doit être aussi notre objectif, frères et sœurs. Nous devons être forts dans le Seigneur. Nous devons véritablement travailler à ce que notre foi grandisse de plus en plus. Parce que quand la foi n'est pas fortifiée, nous devenons et nous sommes une cible facile de l'ennemi de nos âmes. Alors, pourquoi est-il si important que la foi des croyants et de l'Église de Jésus soit fortifiée? Pourquoi? Il nous est dit, les églises se fortifiaient dans la foi et Paul, il parcourait les villes fortifiant les églises. Cela nous montre réellement l'importance. Cela nous montre qu'il y a, il y a quelque chose à laquelle nous devons aspirer, non seulement en tant que croyants, mais en tant que peuple de Dieu, en tant que famille de Christ. Nous devons être forts dans le Seigneur. La foi, c'est cet élément essentiel qui permet aux croyants et à l'Église de mener à bien notre vie chrétienne. C'est par la foi que nous pouvons nous tenir devant le Seigneur, nous attendant à lui. Nous attendons à lui pour toutes choses. Souvenons-nous de ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira au chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est important, donc. Et l'auteur montre ici que la foi, c'est cette démarche que Dieu attend de ses enfants. La foi, c'est cette démarche que Dieu attend de son Église. Et puisque Dieu apprécie quand les enfants s'approchent de lui par la foi, la base de la foi, c'est la confiance en Dieu. Les bases, elles se fondent sur cette confiance et l'engagement envers Jésus-Christ. Souvenons-nous d'Abraham. Lorsque Dieu va choisir Abraham, dans Genèse au chapitre 5, 15, verset 6, lorsque Dieu va choisir Abraham du milieu de sa famille pour mettre dans son cœur cette mission, il est dit, Abraham eut confiance en Dieu qui le lui imputa à justice. Il eut confiance. Il n'a pas vu avant d'avoir confiance, mais il a eu confiance et on réalise quand même que tout ce que Dieu attendait d'Abraham, c'est la confiance dans la promesse que Dieu lui avait donnée. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est la confiance dans sa parole. Si nous n'avons pas confiance, nous ne pouvons pas mener à bien notre vie chrétienne. Il nous sera impossible de marcher avec Dieu s'il n'y a pas cette notion de foi. Alors, pour Abraham, Dieu attendait de lui pour qu'il ait cette confiance, pour que la promesse soit réalisée, et il a pleinement satisfait aux exigences de cette promesse. La foi se base aussi sur la vraie connaissance de Dieu Et les vérités de la foi sont très importantes et doivent être basées sur la parole de Dieu. Vous savez, la foi ne saurait être fortifiée que lorsqu'elle se base et se fonde sur la parole. Paul dira dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, pour nous montrer véritablement l'importance de la foi, il dira ceci, 2 Timothée chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. » Inspirée de Dieu. Il montre véritablement d'où proviennent les écritures que le Seigneur nous a laissées. Cela n'a pas été l'objet d'une pensée humaine. Ce ne sont pas les apôtres qui ont décidé un jour, nous allons écrire des choses sur Dieu et de ce qu'il attend de nous. Non, ils ont reçu cela de la part de Dieu. Et Paul montre véritablement cela, d'où l'importance que nous puissions baser notre foi, non pas sur ce que nous croyons, nous croyons savoir de nous-mêmes ou sur Dieu, mais sur ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. Elle se fonde. Il dira aux Romains, Paul, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la pensée des hommes. De ce que uniquement je vous dis, non, de la parole de Dieu. La foi vient de la parole. À la question donc, pourquoi il est si important que la foi soit affermie, nous devons aussi savoir ce que le Seigneur attend de nous en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu. Comme vous le savez, la vie chrétienne se vit par la foi. Elle se vit par la foi. Déjà, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et le Seigneur, faisant bien les choses dans notre marche avec lui, il ne nous montre pas tout par avance. Pour nous amener véritablement à cheminer avec lui en ayant cette confiance. Même dans les choses que nous ne voyons pas et même dans les choses que nous ne comprenons pas. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est accepter véritablement que le Seigneur nous mène, même si on ne comprend pas. On accepte de poser notre main dans celle du Seigneur et de nous laisser conduire, de nous laisser diriger, et c'est la foi. C'est la foi qui m'amène à dire, Seigneur, je dépose ma main dans ta main, et même si je ne vois pas plus loin que mes yeux, je te fais confiance. Parce que je sais que là où tu me mènes, c'est là où je vais m'épanouir. C'est là où tu me veux. C'est là où véritablement tu désires que je sois. Alors c'est par la foi que l'on accepte. Paul dira dans Galates au chapitre 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Et Paul, alors qu'il affermissait les églises et il aspirait à ce que les croyants et les églises soient affermis, lui-même, il a mis sa confiance dans ces choses-là. Il n'a pas mis sa confiance en lui-même, alors que nous savions qui était Paul avant qu'il rencontre le Seigneur. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et nous devons non seulement vivre notre vie chrétienne dans la foi, mais la foi, nous devons marcher aussi par la foi, parce que, sans vous apprendre rien de nouveau, vous savez qu'en étant hommes sur la terre, nous affrontons toutes sortes d'épreuves, d'autant plus en tant qu'enfants de Dieu. Parce que depuis le jour où nous avons livré notre vie au Seigneur, nous sommes en perpétuelle lutte avec l'ennemi de nos âmes. Et nous devons accepter, nous devons affronter toutes choses par la foi. Souvenons-nous de ce qu'il a été dit des témoins de la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, relisez s'il vous plaît les derniers versets, les versets 30 à 40, où l'auteur nous montre véritablement ces hommes et ces femmes qui se sont accrochés à ce qu'ils avaient entendu de Dieu. Bien que leurs yeux n'aient pas vu les promesses, ils se sont livrés à ce que Dieu leur avait dit. Ils ont eu des moments difficiles. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux en parle. Ces hommes ont eu des temps difficiles. Mais malgré tout, ils ont fait confiance. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Je ne vous apprends rien de nouveau non plus. Parce que Paul nous dit dans sa parole, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Voilà le combat dans lequel nous nous sommes engagés. Mais au verset 16 de l'Épître aux Éphésiens, Paul dira ceci, alors qu'il parle de l'armure du chrétien, Paul dira au verset 16, « Prenez par-dessus tout, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. » Il nous donne un certain nombre d'armures que nous devons revêtir pour notre marche avec le Seigneur et il dit « Prenez par-dessus tout » pour montrer l'importance de cet élément qu'est la foi. Pour montrer véritablement que c'est par elle que nous allons pouvoir résister à l'ennemi de nos âmes et être victorieux dans notre marche avec le Seigneur. Prenez par-dessus tout. Voilà ce qui couronne les autres armures qu'il a données. Non pas que les autres ne sont pas importants, mais il montre véritablement ce qui va nous amener à compter sur la grâce du Seigneur. C'est le bouclier de la foi. Le croyant est appelé, vous savez, à vaincre le péché par la foi. De vous à moi, si nous essayons de lutter avec le péché par nous-mêmes, rassurez-vous, nous sommes perdants. Si par nous-mêmes nous voulons combattre le péché, nous sommes perdants. Et nous avons besoin de cette confiance dans le Seigneur pour nous. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas notre responsabilité à faire, parce que le Seigneur ne fera pas tout. Mais j'ai besoin quand même de réaliser que je suis appelé à vaincre le péché par la foi, non pas par mes efforts. Donc de toutes ces attentes, vivre et marcher par la foi, affronter et combattre le bon combat de la foi, vaincre le péché et lutter contre Satan par la foi, il est important que notre foi soit affermie. Il est important. Parce que comment est-ce que je vais faire? Marcher dans la foi, vivre dans la foi, affronter les épreuves par la foi, lutter contre le péché par la foi, vaincre l'ennemi par la foi, si ma foi est affaiblie. C'est pour cette raison que nous avons au milieu, malheureusement parfois, au milieu de nous, des personnes qui chaque jour, sont dans les mêmes travers. Parce que on ne prend pas soin de nourrir convenablement ce qui va nous aider à résister aux intempéries de la vie chrétienne. Ce qui va nous aider véritablement à triompher quand nous serons face à une épreuve, qu'est-ce qui va nous amener à surmonter l'épreuve ou à la vaincre? C'est la foi. La foi. Alors, le mot fortifié, Paul dira, les églises se fortifient. Le mot fortifié a donné le mot fortification. Et vous savez, dans les anciens empires, on parlait beaucoup d'empires fortifiés. Pourquoi? Pourquoi il y avait des empires fortifiés? Pourquoi? Pour? Ah, oui, oui. Pour résister. Si un empire n'était pas fort, il était facilement attaqué. Il était facilement pris pour cible. Et l'empire qui était fortifié résistait. Et non seulement l'empire fortifié résistait, mais il repoussait l'ennemi. Alors pour nous, il en est de même, frères et sœurs, quand la foi, elle est fortifiée, quand je veux être fort spirituellement, il faut que je construise autour de ma vie cette fortification qui va me permettre de résister et de repousser. Et ce qui va me permettre de résister et de repousser, c'est cet élément qu'est la foi. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps difficiles. Et plus que jamais, l'Église de Christ est ballonnée. Il y a tellement de choses qui sont contre l'Église. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et étant dans les temps de la fin, frères et sœurs, ne croyons pas que tout va être facile pour nous. Sans vous décourager, tout ne sera pas facile. Il y aura encore des temps difficiles, même plus difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Alors, puisque nous serons face à des temps difficiles, si je n'ai pas une foi forte, si l'Église n'est pas forte, où sera-t-elle demain? Devant ce qui va être comme une épreuve plus difficile. Voyez-vous, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que l'Église du premier siècle cherchait à se fortifier dans la foi. C'était le commencement, mais ces croyants avaient compris que depuis le jour où ils ont accepté de livrer leur vie au Seigneur, ils savaient fort bien que les temps ne seraient pas faciles. Alors que nous qui sommes dans les temps de la fin, le retour du Seigneur est certain, il est proche. Et les choses se mettent en place. Et nous devons réaliser quand même qu'il y a un combat. Vous savez, le diable, comme je l'ai dit, cherche à détruire. Et Paul, dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 1er, il montre aussi que dans les derniers temps, certains vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui. Beaucoup, malheureusement, se laissent détourner parce qu'ils entendent de certains soi-disant prophètes, pasteurs, de certains soi-disant appelés de Dieu. Mais vous savez, nous devons les éprouver. La parole de Dieu nous le dit. Ne prenons pas pour argent comptant quelqu'un qui dit être appelé de Dieu. Mais vérifions, frères et sœurs, et je le répète, même ce que je vous dis, en toute humilité, vérifiez. Vérifiez. Ne soyons pas livrés à nous-mêmes comme cela. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance au pasteur, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Mais soyons comme les Bériens. Que faisaient les chrétiens de Béré? Que faisaient-ils? Hein? N'avait-il pas confiance aux apôtres? Bien sûr. Mais pour que leur foi soit fortifiée, non seulement ils s'appuyaient sur ce qu'ils entendaient, mais ils basent leur foi sur ce qui était écrit. C'est ce qui va nous amener, frères et sœurs, à résister, à tenir ferme, à remporter même des victoires. Vous savez, Paul donnait cet avertissement aux croyants. Dans Actes au chapitre 20, verset 29 à 32, il dira ceci. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. » Voilà un avertissement que Paul a donné à ses croyants. « Je sais qu'après moi, il va s'introduire au milieu de vous des loups cruels. » Vous savez, quand on veut faire peur aux enfants, on dit « le loup, il est là ». Et c'est ce que je dis à mes filles, le loup. Et quand tu dis le loup, elles reviennent. Paul dira, voilà, après moi, voilà quelque chose à laquelle vous allez faire face. Certains viendront. Et je ne sais pas si c'est aux Colossiens ou aux Philippiens, Paul va utiliser un terme qui, aujourd'hui, il les traite de chiens. Il les traite de chiens. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous entendons de tout et nous voyons de tout. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent avoir par les choses qui se passent sur Internet. Voyez-vous, on ne peut pas nourrir sa foi. Tout n'est pas mauvais sur Internet. Mais on ne peut pas nourrir sa foi uniquement sur ce que nous voyons et nous entendons sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. On a besoin d'aller à la source. Et c'est là où je veux en venir. Comment se fortifier dans la foi? Dans Actes au chapitre 2, verset 42, il nous a été rappelé l'activité première de l'Église du premier siècle. Après avoir été touché par la grâce de Dieu, après avoir été saisi, il est dit ceci, « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Voilà l'activité première de l'Église du premier siècle, en tant que corps uni, en tant que peuple de Dieu. Il persévérait dans ces choses-là. Premièrement, dans l'enseignement des apôtres. Je disais tout à l'heure que la foi ne saurait être fortifiée, elle ne saurait être affermie que lorsqu'elle se base et se fonde sur la parole. Nous devons, frères et sœurs, de nous nourrir convenablement. Et voilà le défi pour nous en tant que croyants, mais voilà le défi pour nous en tant que peuple de Dieu. Nous nourrir, merci Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont assidus dans la lecture, dans la méditation de la parole. Et c'est ce que nous devons faire. Cela n'est pas réservé uniquement aux pasteurs. Non, frères et sœurs, la méditation de la parole est pour tous les croyants. Et je vous encourage. Je sais que plusieurs le font, mais continuons, persévérons. Ils persévéraient. Et c'est en ce sens qu'ils ont été fortifiés dans leur foi. Parce qu'avec la parole, ils ont pu véritablement s'entourer de ce qui allait les amener à résister. Il y a un encouragement que Paul a donné à Timothée, ce jeune serviteur, dans 1 Timothée au chapitre 4, versets 6 à 7. Paul montre à Timothée l'importance de la parole et il dira ceci à ce jeune serviteur. Voilà, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Amen. Vous savez, on ne saura repousser ces choses-là que lorsqu'on s'appuie sur la parole. C'est quand je m'appuie sur la parole, quand je m'appuie sur la vérité, que je saurai rejeter ce qui n'est pas de Dieu. Parce que sinon, je prendrai pour argent comptant tout ce que j'entends. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. La deuxième chose qui va fortifier notre foi en tant que croyant, mais aussi en tant que peuple de Dieu, c'est la communion fraternelle. Et la communion dénote l'importance de la dimension communautaire de la vie de l'Église. Puisque nous avons un salut commun et une foi commune, cela doit rendre les croyants proches les uns les autres. Le salut commun et la foi commune doit nous rendre proches les uns, sans nous ingérer dans la vie des uns des autres. Excusez-moi. Ce n'est pas parce qu'il y a la communion fraternelle que je dois aller mettre mon nez là où il ne faut pas. Je dois respecter les autres. Mais la communion, c'est ce que le Seigneur a voulu pour l'Église. Parce qu'un chrétien seul, je ne sais pas, mais on n'a jamais vu un berger avec son troupeau qui, voyant un agneau s'éloigner, le laisse seul. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. À chaque fois que le berger voit au sein du troupeau un qui s'éloigne, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi le fait-il? Pourquoi le fait-il? Parce qu'il sait que le seul, celui qui est seul, il est facilement repérable. C'est une proie. Donc, frères et sœurs, quelqu'un qui me dit « je n'ai pas besoin de la communion fraternelle », excusez-moi, il n'a rien compris. Excusez-moi. Quand on est chrétien, on se doit de vivre ce que le Seigneur a instauré. Voilà pourquoi quand on organise des choses, frères et sœurs, c'est important que nous soyons là. C'est important quand on n'est pas là parce qu'on travaille ou pour une situation de santé, là on peut comprendre. Mais voilà, c'est des choses qui vont renforcer l'unité au sein du peuple. C'est des choses qui vont fortifier notre foi et nous amener véritablement à triompher. Alors, frères et sœurs, rappelons-nous ce que l'Église du premier siècle a fait. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans le partage entre eux, dans la fraction du pain, mais il persévérait aussi dans la prière. Et je vais terminer avec ce point. La prière dans l'Église, voilà ce qui va affermir notre foi. Encore un chrétien qui dit « Pasteur, je prie seul chez moi », c'est bien. Mais si le Seigneur a voulu l'Église, c'est qu'il y ait aussi une prière commune au sein de l'Église. C'est bien de prier seul. Le Seigneur dira « Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. » Quand tu es à la maison, voilà ce que tu fais. Mais quand on est tous là ensemble, il n'est plus question de fermer la porte derrière toi. Parce qu'on est là tous ensemble. Et la prière commune, elle est vitale pour l'Église. Elle est vitale pour ma propre vie parce qu'elle m'amène véritablement à grandir auprès des uns des autres. Dans Actes au chapitre 12, il va y avoir une situation à laquelle l'Église du 1er siècle va être confrontée. Le contexte, Jacques, frère de Jean, venait d'être exécuté et Pierre est emprisonné. Ah, voilà une situation. Jacques, Pierre, que va faire l'Église? Que va faire l'Église? Aller se cacher. Eh oui, allez, il faut se cacher. Non, il faut pas se faire repérer. Chacun ce choix. Allez, on est à la maison, il ne faut pas sortir. Non, le contexte dans lequel Jacques venait d'être exécuté, Pierre est emprisonné et l'Église, elle est confrontée à la persécution. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à prier. Elle va se mettre à prier. Actes chapitre 15, pardon, Actes chapitre 12, verset 5. Je termine avec ce verset. Actes chapitre 12, verset 15. Verset 5, pardon. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église, il est dit l'Église, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait. Ils ont persévéré dans ce qui était comme un devoir pour eux, la prière. Parce que la prière nous unit aussi les uns les autres, mais elle nous unit à Dieu, au Seigneur. Et on réalise quand même qu'ils vont s'appuyer sur le fait que la prière du juste a une grande efficacité, comme Jacques va le dire. Et ils vont s'unir dans la prière pour Pierre qui a été emprisonné, sachant véritablement que par la prière, le Seigneur pouvait délivrer Pierre. Et le résultat, leur prière a été exaucée. Frères et sœurs, l'Église a besoin. Tout comme nous sommes là le dimanche pour louer le Seigneur, nous avons besoin aussi d'un temps pour nous rassembler, pour prier ensemble, pour implorer la grâce de Dieu ensemble, pour lutter ensemble, pour combattre le bon combat de la foi ensemble. D'où l'importance des réunions de prière. Et je vous encourage, frères et sœurs, nous vivons des choses merveilleuses ensemble le vendredi soir. Ah, pasteur, c'est la fin de la semaine et je suis fatigué. Quand j'arrive à la maison, je ne me sens plus de sortir. Ah, c'est ce que j'entends. Je peux comprendre que tout au long de la semaine, il y a eu de l'occupation à cause du travail. C'est normal parce qu'il faut travailler. Il faut travailler. Vous savez, j'ai été comme vous, avant de devenir, même pendant ma formation, je travaillais. Je finissais le boulot, je travaillais de 19h à 7h du matin, je finissais le boulot à 7h, à 8h j'étais à l'église et je devais prêcher toute la journée. Allez-y, dites que je n'étais pas fatigué. Eh oui. Allez-y, dites que je n'étais pas fatigué. Mais je comptais sur la grâce du Seigneur. Donc, pour quelqu'un qui me dit, oui, je suis fatigué, là, je comprends. Mais vous savez, on peut faire des efforts. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de s'unir dans la prière. vu les circonstances dans lesquelles l'Église se trouve. Parce que si Dieu a permis que l'Église demeure au sein d'un monde impie, au sein d'une société perverse, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle veut que l'Église soit rayonnante et que le nom du Seigneur en soit glorifié en son sein. Alors, frères et sœurs, je vous encourage, non seulement à être là le dimanche pour qu'ensemble nous louons le Seigneur, mais je vous encourage aussi à être là, au réunion de prière. Cela ne peut faire du bien qu'à nous-mêmes, mais aussi à l'Église. Alors, frères et sœurs, voilà ce qui est vital, important, que notre foi soit affermie, que notre foi prenne un essor. Vous savez, quand Paul s'adressait aux Thessaloniciens, il louait ces chrétiens-là et l'Église de Thessalonique de la foi qu'ils avaient. Leur foi grandissait, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que peuple de Dieu. Et c'est ce à quoi j'aspire en tant que pasteur, que chacun de nous fassions des progrès individuellement, mais que tous ensemble aussi, l'Église soit vue comme un ensemble. L'Église soit vue comme une entité que le Seigneur se sert pour se glorifier dans cette société, dans cette ville. Alors que le Seigneur soit béni. Je termine avec le verset que l'on a lu. Les églises se fortifiaient dans la foi et le résultat, et le Seigneur ajoutait à leur nombre ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait à leur nombre. Voilà quelque chose qui doit nous émerveiller. Ce n'est pas nous qui ajoutons l'Église, mais nous avons aussi notre part de responsabilité. Quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande, il se glorifie au milieu de nous. Amen. Quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande, il se glorifie. Alors, frères et sœurs, soyons de ceux et celles qui cherchons à fortifier notre foi. Non pas pour être vu des hommes, non pas pour qu'on dise « oui, ah oui, voilà un homme de foi ». Non, c'est pour que le Seigneur se glorifie au travers de nos vies. C'est uniquement ça. La gloire revient à Dieu seul. Que son nom soit béni. Amen. Je bénis, Seigneur, ton nom, de ce que tu nous as sauvés, tout un chacun. Mais je te rends grâce de ce que, malgré nos différences, Seigneur, tu nous permets d'être une famille. Et nous voulons être cette famille unie en ton nom, Seigneur. Nous voulons être cette famille qui marche véritablement dans la foi, et qui lutte dans la foi, Seigneur, qui combat dans la foi, Seigneur, qui résiste par la foi éternelle. Alors je prie véritablement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu aides chacun et que tu aides le peuple, Seigneur, mon Dieu, à rayonner, Seigneur, au sein de cette société, au sein de cette ville, Seigneur, que l'Église puisse apporter véritablement la bonne nouvelle à ceux qui sont autour. Je rends gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Seigneur, aide-nous que tout au long de la semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur, notre foi grandisse en toi. Seigneur, que nous allions, nous fassions des progrès, que nous marchions de progrès en progrès dans notre élan pour toi, Seigneur. Ô Éternel, et à cause de cela, Seigneur, nous, Seigneur, ajoute à ton Église des âmes sauvées. Voilà notre désir, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, bénis chacun dans le nom de Jésus, que devant les difficultés, les épreuves, Seigneur, nous ne nous laissons pas abattre, Père Éternel, mais pour que nous brandissions le bouclier de la foi, Seigneur. Éternel, règne au milieu de nous.